Le timbre du coin.
L'émission prête à poster.
On y poste presque tout.
Mais jamais rien.
Salut les timbrés, aujourd'hui dans le timbre du coin, j'ai super peur dans le studio parce que je reçois en fait deux Kenji, à savoir deux pratiquants du kendo, à savoir Julien et Xavier qui font partie de l'association Kenshinkan. Alors salut les gars.
Bonjour.
Salut.
Et pourquoi j'ai peur? Alors parce que vous avez des toutes petites voix, mais en même temps vous avez des gros équipements, à savoir l'équipement formel ou je sais pas.
On appelle ça un bogu, c'est-à-dire, c'est la traduction littérale d'armure en japonais.
Simplement. C'est ça.
Ouais.
Alors, pour les auditeurs, ça ressemble à ce qu'on peut voir dans les films de samouraï, avec vraiment le casque, avec les grilles, un espèce de kimono sombre, et puis il y a des gants, et puis des protections, et puis une armure, en fait. Donc, voilà. Alors, je suis avec deux samouraïs dans le studio, ça, c'est un peu flippant. Et en même temps, c'est hyper intéressant, parce que du coup, le kendo, les gens ne connaissent pas forcément. Ça, à la base, littéralement, ça veut dire la voie du sabre.
Tout à fait.
Et donc, c'est la pratique que vous avez, en fait, à Plo Hermel, donc c'est un club de kendo basé à Plo Hermel, c'est donc l'assaut Kenshinkan, qui littéralement veut dire l'académie du cœur du sabre, c'est ça?
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que c'est que le kendo? Est-ce que déjà vous pouvez nous aiguiller un peu là-dessus?
Alors, pour faire très 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 simple, hein, c'est un art martial japonais, mais c'est une escrime au sabre.
Okay.
Une escrime au sabre, voilà, au même titre que l'escrime occidentale où on essaye de toucher l'autre en face et de marquer des points. En touchant des parties précises, ou en touchant des parties, en tout cas, à l'escrime occidentale, au kendo, ben, on essaye de toucher des parties précises de l'armure du gars d'en face, avec une partie bien précise de l'outil qu'on utilise quasiment tout le temps, qui est le sabre en bambou, qu'on appelle le shinai.
Qui ressemble pas vraiment à un sabre, ressemble plutôt à un parapluie fermé, en fait.
Tout à fait, c'est vrai que
en bambou.
Ça peut ressembler, effectivement. Alors, on peut pas utiliser au kendo, bien sûr... De vrais sabres, on se couperait, ni même des sabres en bois dense, hein, on se ferait beaucoup trop mal. Et il se trouve qu'il y a environ 300 ans plutôt, les Japonais ont trouvé la solution en inventant donc le shinai. C'est un assemblage de 4 lattes de bambou qui sont reliées par des parties en cuir.
Ouais.
Et l'avantage, quand on frappe, c'est que l'énergie elle est diffusée dans ces 4 lames de bambou. Et voilà, quitte à ce que le bambou plie sur le partenaire, mais voilà, en tout cas l'énergie est absorbée, ça fait pas mal du tout. Alors on utilise aussi un sabre en bois dur, hein, en général c'est plutôt du chêne, c'est un genre de chêne quoi, c'est plutôt pour, comme à l'aïkido, comme pour faire donc des katas, c'est-à-dire des simples formes techniques pour améliorer son geste, mais là cette fois-ci on ne porte pas l'armure puisqu'en fait il n'y a pas de frappe.
D'accord, ok, donc là c'est vraiment pour la tactique du geste et enfin en tout cas le mouvement et tout ça quoi.
C'est ça, comme au judo, comme à l'aïkido et dans d'autres arts martiaux comme ça, il y a donc des petits scénarios entre un attaquant et un défendant, pour des petites chorégraphies de combat qui étaient l'ancienne manière finalement avant que le kendo soit kendo, avant qu'il devienne un art martial, avant, quand il était encore à l'époque des techniques de sabre, et bien c'était la seule manière qu'avaient les Japonais de transmettre les connaissances au sabre.
Et souvent, ça se passe au ralenti, ça, par exemple, non?
Alors, ça peut se passer au ralenti, quand dans notre pratique, au kendo, en tout cas, on fait en sorte que les scénarios soient le plus joués avec intention. C'est-à-dire qu'on essaie de mettre
le
du
plus proche de la réalité.
Ouais, ouais, exactement. Oui,
c'est un duel à mort, à la base, donc il faut mettre un petit peu l'intention, quoi.
C'est ça, c'est qu'à la base, c'est quand même une pratique de guerre, quoi.
Oui, c'est un art martial et l'héritage est un des plus anciens, donc c'est une des étiquettes les plus rigides encore, où les saluts et la hiérarchie est très forte dans le kendo, en fait.
Il y a un vrai processus, quoi. Voilà. Dès qu'on entre dans le dojo, c'est...
Tu t'alignes pas n'importe où, tu mets pas tes affaires n'importe où, on commence l'entraînement avec un salut, ça se termine avec un salut, on a une calligraphie qui nous sert de shomen, qui rappelle nos anciens professeurs, etc., qu'on va saluer d'une façon particulière, etc. Donc tout ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage du kendo.
C'est une sorte de cérémonie, quoi, à chaque fois, en fait.
Voilà. Bah, tous les entraînements, en fait, sont codifiés de la même façon, en fait. Moi, je vais expliquer vite fait ce qu'on fait pendant l'entraînement. Donc, on commence par s'échauffer, on court un petit peu, on fait monter un petit peu le cardio. Après, on va faire des étirements pour pas se blesser pendant 10-15 minutes, voilà. Après, on va commencer des suburi avec le boken, donc le sabre en bois. On va réviser des techniques. Au début, on va commencer par s'assouplir. Puis après, on va essayer d'approfondir des techniques particulières, de faire le tour.
Le suburi, c'est...
Ce sont les techniques enchaînées en début d'entraînement, en fait.
D'accord. Donc, alors, okay. c'est des mouvements qui sont faits sans personne en face de soi, simplement pour détendre les muscles. Avant
d'accord.
De, ouais, pour recréer de la coordination. Alors, on en reparlera peut-être un peu plus tard quand on parlera des conditions pour valider certains points, ce genre de choses. Mais la coordination, c'est quelque chose d'essentiel au kendo. Ça se travaille et ça s'entretient tout au long de la vie, j'allais dire, du kenshi, quoi, du pratiquant.
Parce que l'enseignement, de toute façon, dure toute la vie. Pour avoir la technique parfaite, c'est un travail de très longue haleine, en fait. Donc quand on a travaillé les suburi, en général on va travailler un petit peu la technique, soit au boken, on peut aussi travailler les katas, enfin ça va dépendre de Romain, ce que notre enseignant décide de nous faire travailler. Et l'entraînement se termine avec, on va mettre l'armure, ben, et après on va travailler en armure jusqu'à finir avec des combats libres. On va se rencontrer tous à tour de rôle et au bout de 2 heures, en général, on a donné 110% et on salue pour remercier tous les autres d'avoir pratiqué avec nous.
C'est sur des sessions de 2 heures, déjà, pour les adultes. Mais il y a aussi, vous proposez aussi des sessions pour les enfants, pour les moins de 16 ans.
C'est ça.
Donc quand j'ai dit adulte, c'est à partir de 16 ans, en fait.
Oui, à peu près. Ouais.
Mais pour les moins de 16 ans aussi, il y a des sessions. Alors là, c'est pas sur 2 heures, c'est plus sur 1 heure.
Ouais. C'est la nouveauté cette année, en fait.
Je peux en parler. On a mis en place un créneau, par contre, qui ne sera pas à Plormel, qui sera à Topon, le mercredi soir de 19 à 20h.
Donc, on parlera des adhésions tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un petit peu particulier comme pratique. Il y a aussi de l'équipement. Ça fait aussi partie de cette discipline.
C'est un investissement à long terme,
ouais,
en effet.
Un investissement financier, mais surtout
personnel
quoi. Si. Hein, parce que... Comme dans tous les arts martiaux, il y a quand même une grosse approche...
Spirituelle peut-être pas, mais en tout cas mentale.
Ouais,
en tout
c'est
cas,
ça.
Il ne faut pas faire peur aux auditeurs, mais c'est vrai que quand on s'inscrit, on finit rapidement par manger kendo, boire kendo, respirer kendo. c'est un peu inévitable, en fait.
C'est quelque chose qui prend... c'est important d'être assidu, je pense. Ouais.
Ouais. Cette pratique du kendo, comment elle est arrivée en France, en fait? Parce qu'à la base, ça vient du Japon. Comme tu disais, ça date d'il y a 300-400 ans, c'est ça? Comment ça s'est passé, en fait, la transition d'arriver en France, en fait, du kendo?
Alors, l'arrivée en France, ça se fait plutôt à partir de la fin des années 50. On a quand même quelques Français qui partent à l'étranger... juste après-guerre, et qui arrivent à trouver des sensei qui les acceptent dans leur dojo. Et on a, si on fait quelques recherches sur Internet, on trouve la trace rapidement de championnats, par exemple, dès 1959. Bon, ils n'étaient pas très nombreux, hein, bien sûr, mais voilà, le premier championnat de France kendo, c'était à Paris, c'était en 1959. Donc voilà, il y avait quand même un embryon de fédération, ou en tout cas de pratiquants qui étaient assez structurés pour ça. Voilà, aujourd'hui, on est environ 5000 licenciés en France, un tout petit peu moins.
Un petit peu moins.
Oui, ouais. Il y avait débat à ce sujet. Mais... Non, environ 5000. Voilà, dans je ne sais pas combien de clubs. En tout cas, voilà, sachez que la Bretagne est extrêmement dynamique du point de vue du kendo. Il y a à peu près un club dans chacune des grandes villes de la côte, et Plouarmel et le club de Centre-Bretagne.
Et qui font tous partie, en tout cas, qui sont tous sous l'égérie de la Fédération de Judo, en fait, française, c'est ça?
Alors, on fait partie du Comité National de Kendo et des disciplines associées. Alors, ça regroupe, bien sûr, le kendo, et puis d'autres disciplines, je ne vais pas dire annexes, des fois qu'ils nous écouteraient, mais non, ils sont très importants. Donc, ils font du yaido, donc c'est l'art de dégainer le sabre. Donc, c'est essentiellement des katas qu'on réalise seul, donc c'est encore plus introspectif comme art. On a du jodo, qui est basé sur le même principe, mais avec le maniement du bâton. Et du naginata, c'est-à-dire de la hallebarde, qui se pratique à peu près sur le même mode que le kendo. Voilà.
D'accord.
Donc, nous, tous ensemble, toutes ces disciplines-là, on est rattachés à la fédération de judo.
Et comment ça se fait, ça, justement? Parce que j'ai vu qu'il y avait une fédération internationale de kendo, par exemple. Mais pourquoi en France, du coup, ça se retrouve? Parce qu'on parle d'arts martiaux, quoi, tout simplement?
Je pense qu'il y a une... Il y a eu une facilité peut-être administrative à rejoindre le judo
Mais ça pose pas de soucis au quotidien.
A priori, non.
Non, on a des beaux locaux en plus. Ça se passe bien.
Alors justement, les locaux à Ploërmel, ça se situe où en fait?
C'est le centre des arts martiaux régional de Ploërmel. On a vraiment un des plus beaux parquets, je crois, de Bretagne. Enfin, on est vraiment super gâtés, quoi. En plus, l'équipe fait tout pour nous, donc j'en profite pour remercier Jérôme et Sylvie ils nous ont encore trouvé un créneau pour les enfants, donc c'est vraiment super. Ouais. On a un super parquet, on a une super salle, vraiment on est gâtés.
Voilà, alors à savoir qu'on cohabite très très bien avec les autres arts martiaux dans le sens où on n'utilise pas de salles nécessitant des tatamis, mats.
Oui, c'est ça, vous êtes sur parquet.
Nous, on est sur parquet, ouais. On pratique pieds nus sur parquet. Voilà.
On cohabite avec les danseuses en fait.
Voilà.
Et alors en France, c'est arrivé donc dans les années 50, hein, c'est ça que tu disais. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que c'est une pratique qui a été complètement interdite au Japon pendant la guerre.
À la même période, oui, effectivement. Ça, c'était du point de vue historique. En fait, c'est après la guerre, les Américains occupant le Japon ont essayé d'éviter de tendre, j'allais dire, les facilités de révolte ou autre aux Japonais, et donc on interdit une bonne partie des arts martiaux, les arts martiaux avec armes en particulier.
C'est là que peut-être que la dimension sportive du kendo a été mise en avant aussi, avec les compétitions, en montrant, regardez, c'est du bambou, c'est du sport, et puis ça s'est redémocratisé, et puis ça a fini par redevenir légal.
Et c'est peut-être pas pour rien que c'est arrivé en France à peu près à la même période, par exemple, en tout cas en Europe, où c'est peut-être qu'il y a des gens qui ont voulu continuer à pratiquer, qui sont venus là où ils pouvaient en faire.
Et ils sont allés chercher l'audience là où elle pouvait encore être possible, c'est sûr.
Alors vous deux, personnellement, Julien et Xavier, donc toi Julien, t'es président de l'asso, donc l'asso Kenshinkan, hein, je le rappelle, et toi Xavier, toi tu t'occupes de la com et tout ça, et puis bon, vous êtes tous les deux pratiquants, hein, donc Kenshi du kendo. Comment ça vous est venu, ça? Enfin, qu'est-ce qui vous a amené en fait à vouloir faire du kendo? Alors, est-ce que vous étiez fan de manga quand vous étiez petit, ou est-ce que, qu'est-ce qui vous a amené à ça en fait?
Moi, à la base, je faisais du judo. Ouais. Il y a longtemps, j'ai une superbe ceinture verte qui traîne quelque part, et je me suis blessé en fait. Je me suis cassé les genoux, les ligaments, etc. Aïe. Donc, j'ai arrêté pendant un long moment, et c'est un ami qui est chirurgien qui a rencontré les boussiques de Vendée, et qui sont aussi chirurgiens, et qui m'ont parlé du kendo. Et en fait, le kendo, comme ça se travaille en ligne, il n'y a pas de rotation sur les genoux, et donc moi, ça m'a permis de refaire des arts martiaux avec mes genoux, et puis voilà, je suis tombé dedans. Mais oui, on aime bien les... je parle avec mes frères, on a toujours été fans de Star Wars, on aimait les mangas. Moi, le katana, personnellement, c'est Highlander. Je sais, c'est un peu... Moi, le katana, c'est Highlander, à la base.
Ok.
Mais voilà.
Alors moi, ça paraît un peu bizarre. Je suis parti d'une serviette de bain avec un super samouraï dessus que m'avait donné mon père.
Ok. D'accord.
Quand j'étais vers la fin du collège. Et c'est vers ça que... Enfin, c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser davantage au Japon. Et il y avait un autre bouquin sur les arts martiaux et... Donc parmi tous les arts martiaux un peu classiques comme le judo, le karaté, j'avais déjà fait du judo quand j'étais plus jeune, donc ça je connaissais déjà, mais dedans il y avait le kendo, il y avait le naginata, il y avait le sumo, etc. Et voilà, et donc j'ai vu toutes les images, donc déjà à l'époque c'était un très vieux livre qui datait des années 80, et puis donc il y avait des images, des photos de membres de l'équipe de France en armure, etc. Et... j'ai dit à mon père, tu vois, c'est ça que je veux faire. Il m'a dit, passe ton bac d'abord, c'était l'année fatidique. Et puis j'ai dit, ok, je m'étais déjà renseigné. Et voilà, septembre suivant, je lui ai dit, voilà, tu m'inscris au dojo nantais, parce que j'étais à Nantes à l'époque, et j'ai commencé ma pratique à Nantes.
Alors, sur ton armure, hein, je pourrais pas dire le nom.
Ouais, sur la Zeken, ça s'appelle, cette partie où on a notre nom.
C'est ce qui permet de nous identifier. Toi, on porte pas nos grades comme au judo où la ceinture est colorée.
Là, ça se passe sous le ventre, en fait, quoi.
Ouais, sur le taré.
Ouais. Ça permet de nous identifier au moment pendant les combats, simplement.
C'est une sorte de pagne.
Ouais, voilà, c'est ça, tout simplement. C'est sur une petite jupe qu'on a sur notre pantalon, une jupe épaisse qui permet de parer les coups quand le sabre glisse. Ouais. Donc, on appelle le taré. Et enfilé sur le taré, on a cette petite poche qu'on appelle le zeken.
Okay.
Voilà.
Et qui dit...
Alors, en haut, il y a marqué...
Alors, toi, t'as Saint-Nazaire, le Moing.
Le Moing.
Le Moing, pardon.
Le Moing, ça, c'est moi.
Ah oui, pardon. Autant pour voilà.
C'est moi. La calligraphie en japonais.
En japonais, ouais.
Voilà. Mm. Et Saint-Nazaire, parce que c'est le club où j'ai fait faire mon Zeken à l'époque. Okay. Voilà.
Donc,
mais si Julien se lève, on pourra voir, ouais, admirer son magnifique Zeken. Pleu Hermel.
Alors, ah oui, Pleu Hermel, ok, d'accord, avec le nom, et puis le nom en japonais, quoi. En fait,
c'est, voilà. C'est ce qui nous permet d'être identifiés en compétition, principalement, quoi.
Ok, parce que c'est aussi une pratique de haute compétition, quoi, ouais. Le kendo. Ouais.
D'ailleurs, la France a encore, on va dire, cartonné au championnat d'Europe, vu qu'elle a pris toutes les médailles, donc on est officiellement, et puis 2 ans de suite, en plus, ouais. La grosse nation européenne, ça c'est indéniable. Donc oui, ça se pratique en compétition. En fait, ce qu'on cherche à faire au kendo, c'est kikentai. On n'en a pas encore parlé, en fait. On va essayer de synchroniser l'esprit, le corps et le sabre en même moment. En fait, il ne s'agit pas de mettre des coups de shinai, ouais. Et taper n'importe où, en fait. Mmh. Il faut taper avec la bonne partie du sabre, à des endroits bien précis de l'armure. Mmh. Et il faut engager son corps. Si tu le fais sur place, ça ne marche pas. Il faut engager ton esprit, donc il faut kiaier.
Ça se symbolise par un cri.
Voilà.
C'est assez bruyant, le kendo, par contre. Oui,
ça donne quoi, ce cri?
Je pense qu'on va pas le faire à la radio, parce que
on va casser les haut-parleurs. Ouais, surtout que...
Alors attends, vas-y, je baisse, vas-y.
Yeah!
Ah, en effet, j'ai bien fait de baisser le micro. Ouais. Donc voilà. Ça permet quoi, en fait, ce cri-là, par exemple?
Donc ça permet de concentrer l'énergie au moment où on va partir. Mm-hmm. Une fois qu'on commence à s'engager, on va donc parmi les autres, hein, y a 4 frappes qui sont autorisées au kendo. Si je le frappe sur la tête, par exemple, je vais nommer la partie que je vais frapper en japonais. Et donc le casque chez nous, ça se prononce men. Mm-hmm. Et donc je vais rentrer comme ça, je vais faire mon kiai préparatoire. Yes. Et puis ensuite je vais aller vers lui, je vais le frapper à la tête et pendant que mon sabre au moment où mon sabre touche son casque, eh ben je vais prononcer « men » comme ça.
D'accord. Voilà.
Et quand il va prononcer « men », en fait, le sabre va toucher au même moment et on va frapper du pied pour symboliser l'engagement du corps aussi. Et tout ça va arriver en une seule explosion.
D'accord.
Et c'est le premier qui arrive à faire ça qui marque un point. Et le premier qui gagne 2 points gagne son combat en compétition.
Voilà, c'est un match en deux points gagnants.
Ouais. D'accord. Et vous, concrètement, vous faites de la compète aussi au niveau du kendo?
Ça nous arrive, ouais, en général. Tous les ans, on essaye de participer au bout des tournois ou à des compétitions.
Et il y en a beaucoup, des tournois en Bretagne.
Il y a l'Open de Bretagne, il y a le championnat de Bretagne réuni. Mais entre les stages, les compétitions, en Bretagne, si tu veux faire du kendo tous les week-ends, tu peux.
D'accord,
Suffit d'aller un petit peu par-ci, par-là, mais vraiment, il y a vraiment moyen de...
Donc sur les 5000 pratiquants en France,
en Bretagne,
je l'ai vu il y a pas longtemps, je l'ai oublié, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est l'Île-de-France qui reste la première région, ouais. Vraiment, c'est une belle région la Bretagne au niveau inscrit, hein. Vraiment pas mal.
Hein. Ouais. Ok.
Et les clubs sont très engagés et très dynamiques en plus.
Je propose de faire une petite pause musicale. On est parti sur le taiko, en fait, sur l'instrument. En fait, c'est de la percussion japonaise.
Alors, c'est intéressant parce que ça nécessite un engagement du musicien presque aussi fort que celui du Kenshi dans le combat. Mm-hmm. Donc, c'est en ça que ça nous parle pas mal.
Oui, il y a des maîtres. Il y a des maîtres de taiko.
À l'origine, c'était plus un tambour qui était utilisé dans les fêtes, dans les matsuri pour les récoltes, ce genre de choses. Pour planter ou pour récolter le riz. Aujourd'hui, c'est essentiellement une pratique musicale. Dans les dojos, parfois encore au Japon, c'est utilisé pour marquer les temps forts de l'entraînement.
D'accord. Ah oui, au sein même des entraînements. Ouais.
Par-dessus tous les cris, etc. Ouais, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un gros tambour.
Pour démarrer un exercice ou pour l'arrêter, certains dojos ont des tambours de taiko aussi pour donner le stop.
Eh ben, on va s'écouter un extrait. Alors, c'est Taiko Shuffle, donc c'est tiré de Shogun 2, hein, donc Total War, donc c'est un jeu vidéo.
C'est ça.
Mais souvent, ils sont bien servis d'un point de vue bande-son. Donc là, c'est Taiko Shuffle. Voilà. De retour dans le timbre du coin en compagnie de Julien et Xavier qui font partie de l'association Kenshinkan et qui font du kendo, voilà, à Pleuhermel. Et puis donc c'est une association qui donne des cours de kendo. Donc vous pouvez être un enfant, c'est pas un souci parce qu'il y a des cours pour les moins de 16 ans depuis cette année. Et puis pour les adultes, donc à partir de 16 ans, il y a des sessions, il y a deux sessions par semaine, deux fois deux heures du coup, le mardi soir et le vendredi soir à Pleuhermel. Et alors pour les enfants, c'est le mercredi de 19h à 20h à Taupon. Donc l'asso existe depuis 2 ans maintenant. Qui est à la base de ça?
Bah, on est arrivé à deux couples en fait, de région parisienne. On était du dojo de Sergi, donc le Ken Gakukan. Et puis pour des raisons personnelles et pour gagner en qualité de vie, on a déménagé dans la région. Et on a emmené le kendo avec nous parce qu'il était évident qu'on allait continuer de pratiquer. Et puis du coup, on a créé une association et on a, avec la bénédiction de notre sensei Mohamed Abla, on a créé le Kenshinkan. Et voilà, ça fait déjà, ça va être notre troisième rentrée et ça se passe super bien. On a déjà 17 adhérents.
Ok.
Et voilà, donc comme tu disais, mardi, vendredi, ça commence à 20h15 jusqu'à 22h, 22h15. Et le créneau enfant cette année, voilà.
Alors, 20h15 en tenue.
En tenue.
Ah oui, en tenue.
On commence à courir à 20h15, on
tombe
bien.
Ok, d'accord. Alors, faut combien de temps justement pour mettre une... Parce que l'équipement est assez imposant. Combien de temps faut pour être prêt, en fait?
Alors, il faut savoir qu'on ne met pas tout d'un coup. Alors, c'est-à-dire
d'accord,
qu'on
okay.
on entre dans le dojo, on est vêtu donc en haut d'une veste comme à l'aïkido, mais qui est bleu indigo, qu'on appelle le kekogi. Et d'un pantalon, comme à l'aïkido toujours, bleu indigo toujours aussi pour le kendo, le hakama. Voilà. Donc on est vêtu de ça, on entre avec l'armure à bout de bras dans le dojo. Voilà. On autour de la taille, on met le tablier dont je parlais tout à l'heure qu'on appelle le taré. Voilà, avec le zeken et notre nom. Et alors voilà. Après ça dépend des traditions de club. Parfois on peut déjà mettre directement
le dos.
Voilà, l'armure effectivement, ouais. le plastron ventral.
Qui là, pour le coup, est en plastique,
oui, il est
aujourd'hui.
En plastique.
Mais c'était en quelle matière à la base, à l'époque?
Alors, à l'époque, c'était du bambou. Et ouais, actuellement, c'est toujours du bambou pour les modèles les plus luxueux, les plus chers.
D'accord. Okay.
Oui, ça existe toujours. Ouais. Si. Recouvert de cuir et laqué. Ouais.
Ok.
Donc voilà. Ensuite, en général, donc c'est à ce moment-là, vêtu de ça, on fait les échauffements et ce qu'on a dit tout à l'heure, les suburi, donc les exercices pour se détendre, les épaules. Et le reste de notre équipement, de notre sabre, on a donc nos casques et les gantelets qui sont posés derrière.
D'accord.
Voilà. Et donc le casque avec la grande grille qu'on appelle le men. Et les gantelets, donc voilà.
Les côtés,
voilà.
Ok. Alors tout cet équipement-là, petite question, est-ce qu'il est fourni par le club ou est-ce que justement il faut investir et se l'acheter soi-même?
Bah, on est un jeune club, donc on dispose seulement pour le moment d'une armure qu'on prête, pour ceux qui sont capables de la porter. Donc on porte l'armure quand on est capable de donner et surtout de donner des coups qui ne font pas mal, en fait. Donc
d'accord.
Ça demande déjà un petit apprentissage.
C'est-à-dire qu'avant ça, on porte pas l'armure, en fait.
Non, il faut apprendre à se déplacer, faut apprendre à couper. Et donc, on prête des boken et des shinai pour commencer, pour voir si ça plaît.
Alors, des boken et des shinai.
Alors, shinai, c'est le sabre en bambou qu'on a quatre lattes de bambou, qu'on utilise tout là. Voilà.
Et le boken en bois dur.
D'accord.
Bois dur,
voilà.
Si ça plaît bien, qu'on s'inscrit, ce sera la première chose à acheter... Les deux sabres avec une housse pour mettre dedans. Donc ça, il faut compter une cinquantaine d'euros la première année.
Et puis, en général, on lance une commande groupée autour de novembre.
Oui, c'est ça.
Ce
qui permet peut-être d'avoir le matériel un peu moins cher aussi, quand c'est groupé.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est les sabres en bois. Voilà.
Après la tenue.
La tenue. Ouais. Donc là, on s'en sort à combien à peu près?
Une bonne première tenue, c'est 70 euros, pantalon et veste inclus.
D'accord, donc, voilà. Mais sans l'armure, voilà, c'est ce qu'il faut préciser.
L'armure, c'est encore un peu après, du coup, et là, c'est un petit peu plus onéreux, il faut compter 300 euros environ.
Ouais. Mais ça arrive au bout de combien de temps, du coup, à peu près?
Ça dépend de chacun,
ouais.
De son assiduité, de ses facilités. C'est quand Romain décide qu'il est apte à porter l'armure, ça peut être en fin de première année, ça dépend des gens.
Donc Romain qui est le sensei, donc c'est le maître...
Voilà, notre directeur technique et enseignant.
Directeur technique, voilà. Enseignant, d'accord. On n'a pas parlé du tarif des adhésions justement,
ouais.
On va commencer par les enfants vu que là c'est tout récent. Là c'est 70 euros par an pour les moins de 16 ans, donc pour les sessions qui se passent toutes les semaines, donc c'est une heure tous les mercredis de 19h à 20h à Taupon. Et pour les adultes, donc à partir de 16 ans, c'est 130 euros par an. Mais alors, il faut dire que ces tarifs-là incluent aussi ça inclut la cotisation et la licence.
Oui. Voilà.
Et donc l'assurance, quoi, aussi.
C'est ça.
Comment ça fonctionne, en général, quand on arrive au dojo, qu'est-ce qui se passe les premières fois? Déjà, est-ce qu'on peut venir voir, déjà, si ça nous intéresse, de regarder? Est-ce que ça, c'est possible?
Regarder, c'est bien, mais en général, on va vous tendre un boken et on va vous montrer déjà un petit peu comment placer ses pieds, comment se déplacer, et puis faire déjà les premières coupes, quoi. On vous invite les premières fois, bien sûr, à essayer. Et ouais. Avoir tout l'entraînement, c'est bien de toute façon, pour voir si c'est quelque chose qui accroche ou pas, quoi.
Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Bah après, c'est parti, la voie du kendo, jusqu'à la fin de votre vie, et c'est terminé. Vous êtes accro, et vous faites les compétitions, vous partez à Brest passer vos dan, et faire des stages avec des experts japonais 8e dan, qui viennent en Bretagne.
Alors
aussi.
Les dan, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est?
Bah en fait, on va passer une phase d'apprentissage. Donc, on appelle ça les Q. Donc on va progresser 6e, 5e, 4e, jusqu'à premier Q qui est le plus élevé. Et après, on va passer un examen pour devenir premier Dan.
D'accord.
Donc on va présenter un exercice, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, on vous l'apprendra au dojo, et deux combats. Et si le jury vous trouve un niveau correct, vous passez les katas qui correspondent et... vous obtenez votre, entre guillemets, ceinture noire.
D'accord. Et ça, visuellement, justement, sur l'équipement, ça, on ne le voit pas.
Non, parce que sur
comparé
le...
à d'autres...
Sur
d'autres,
le champ de bataille, en fait, sur le champ de bataille, les gradés sont les premiers visés. Donc,
ah oui, d'accord.
C'est okay. Pour ça qu'on évite de montrer qui est plus expérimenté, parce que ce serait une cible de choix.
Alors, donc, on rassure les débutants, le kendo, c'est pas la foire d'empoigne au sabre en bambou, mais...
on garde cette tradition martiale aussi, et,
okay.
Et puis il y a aussi une question d'ego, comme on abandonne un peu notre ego, on est sur un plan un peu d'égalité,
oui.
En fait. Mais il suffit de croiser le bambou, et on sait en deux secondes quel est le niveau de l'autre.
Pour faire une petite comparaison avec les autres arts martiaux, disons que les Q, en fait, ça correspond aux ceintures de couleur. Et ouais. Que les Dan, ça correspond plus ou moins à la ceinture noire. Et ensuite, voilà.
Petite dernière question avant de se quitter, à moins que vous ayez encore des infos à donner. Moi, la petite question que j'avais, c'est est-ce que vous êtes, en tant que pratiquant du kendo, est-ce que vous êtes déjà allé au Japon, justement, voir comment ça se passait là-bas?
Moi, c'est en projet, mais ma fille étant très jeune, j'attends qu'elle soit un petit peu
d'accord.
Plus grande, mais Kyoto est ciblé bientôt.
Alors moi j'ai déjà eu l'occasion, après avoir passé un concours dans l'éducation nationale, mais c'est plus ce qui m'a permis de m'y remettre. En fait j'avais fait une grande pause de 3-4 ans, et c'est là-bas, en entendant, donc c'était l'été, il faisait très très chaud, mais donc les dojos avaient les fenêtres ouvertes. Mmh. Donc en entendant les cris des pratiquants à travers les fenêtres, je me dis « Ah quand même, il faudrait que je m'y remette ». Et donc dès que je suis rentré, je me suis réinscrit à Saint-Nazaire.
Et bah en tout cas, moi je tiens à vous remercier d'être venu, puis d'être
merci
venu
beaucoup.
En équipement, harnaché de toute la panoplie. Puis je sais pas, peut-être qu'un dernier petit mot pour les auditeurs qui seraient intéressés.
Ouais, si les gens veulent venir nous voir, on va être au forum des assauts de Ploermel qui se passe le 2 septembre. Donc il y aura une démonstration. Donc c'est pas encore confirmé si c'est le matin ou l'après-midi, mais il y aura démonstration. Et on sera aussi à Guégon le 9 septembre.
Pour le forum des assos aussi.
Pour le forum des assos, voilà. Donc,
okay.
Ce sera l'occasion de se rencontrer, de discuter, quoi.
Il y a aussi le site internet, le blog, en tout cas, de l'association Kenshinkan.
Kenshinkan.wordpress.com.
Donc, Kenshinkan, ça s'écrit Kenshinkan, et puis Ploermel tout attaché. Et puis sinon, vous pouvez aussi contacter l'asso directement par mail sur kenshinkan.ploermel@gmail.com.
Voilà. Et sur Facebook aussi.
On a un Facebook.
Et sur Facebook, oui, pardon.
Très important.
Et bah, en tout cas, un grand merci, Julien et Xavier, d'être passés nous voir.
Arigato, demo arigato, gozaimashita.
Et puisque les arts martiaux influencent énormément le cinéma et tout ça, j'ai décidé qu'on se quitterait sur La Voix du Samouraï, la bande-son du film Ghost Dog par RZA du Wu-Tang Clan. Salut!
Timbre du coin,
l'émission prête à poster.
On y poste presque tout,
mais jamais rien.